Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau Weekly News. Nous sommes le lundi 20 août et au sommaire de notre émission, les rumeurs, le procès Superman qui refait parler de lui, des changements d'équipe créative, mais aussi une très grosse partie Screen News avec une mort qui nous attriste, les studios Marvel, les studios DC et aussi pas mal d'annonces sur les jeux vidéo puisque c'était la Gamescom ce week-end. Je suis Steve, vous écoutez le Weekly News. Avec moi cette semaine, Sam.
Salut.
Et Kinghead.
Ouais, bonjour à tous.
Comme d'habitude, on va commencer par la petite partie quoi de neuf. Mais bah, Kinghead, tiens, allez hop.
Alors, quoi de neuf? Bah, déjà, j'aimerais vous conseiller un jeu vidéo que j'ai essayé ce week-end et que j'ai téléchargé sur le Xbox Live Arcade. C'est Dust. C'est un jeu de 2D vraiment addictif, hyper joli, dans le style un peu des Metroid, des Castlevania. Donc, ça coûte pas très cher, c'est 1200 Microsoft Points et il y en a bien pour 12 heures de jeu vraiment agréable. Et côté comics, je viens de démarrer, je pense une série qui ça va plaire à Sam. Je viens de commencer Gotham Central. Et de Greg Rucka, et c'est vraiment une très bonne série pour l'instant. Je suis très content d'avoir commencé ça.
Conjointement avec Ed Brubaker qui fait ses meilleurs boulots là-dessus. Hein.
D'accord, ils écrivent tous les deux en fait.
Ouais, ils ont conçu la série ensemble et ils ont chacun des personnages qui se répartissent au sein de la série, donc c'est super bien conçu, c'est super bien écrit. Et plus on avance, plus c'est addictif.
Et ça fait plaisir de retrouver, de lire Baron et Montoya, parce que on est un peu triste, parce qu'on ne sait pas où elle est actuellement ouais. dans les New 52. Donc
l'un des meilleurs personnages DC qui a disparu.
Mais moi j'ai un espoir que dans la série qui traitera du nouveau Questions, on la reverra. Mais
bah, si on pouvait revoir aussi Cassandra Cain et Stephanie Brown, ça serait...
Oui, une petite pensée pour tous ces personnages qui ont disparu.
Mais vous êtes très bien. Et...
mais j'ai bon espoir qu'ils reviendront plus tard. De toute façon, il y a tellement de fans en plus qui les attendent.
Quoi de neuf pour toi, Sam?
Alors moi je suis en train de me relire Akira. Enfin, je suis en train de m'exploser la gueule sur Akira. J'ai dû lire une centaine de fois et... On en prend toujours plein la gueule.
J'imagine Sam qui se prend la tête et qui se jette la tête contre son bouquin sur une table. C'est « Je m'explose la gueule sur Akira, tiens !»
Ah oui, mais c'est le... Pour moi, c'est l'œuvre quasi parfaite. Hein.
Ah, c'est magnifique.
Plus tu vois Otomo s'améliorer en plus de volume en volume graphiquement. Bon, il a dû épuiser une armée d'assistants là-dessus, mais...
Ouais. Tu lis la version qui n'est pas colorisée, j'espère.
Non, moi j'ai acheté la version qui est sortie en 2000 en 6 gros volumes.
Ouais, moi aussi, c'est
400 pages. Voilà, c'est là que j'ai découvert la série en comics, enfin en BD, pas en animé.
En animé. Ouais.
La première fois, je l'avais dû le voir en fin des années 80, ça m'avait traumatisé.
Mais bah, attends, c'est super choquant pour un gamin comme film. Quoi.
Parce que c'est sûr que ça.
J'avais pas 10 ans quand je l'ai vu la première fois, donc je t'en souviens longtemps.
Pareil.
Et en fait, pareil. Je l'ai revu vraiment quand j'avais 17-18 ans quand j'ai commencé à lire la BD. Et effectivement, là, ça fait partie des trucs, je pense, qu'il faut être prêt pour le voir. Il faut vraiment être prêt psychologiquement pour l'encaisser et l'apprécier.
C'est tout simplement un classique du manga, hein, Kira.
Ouais. Entièrement.
Et toi, Steve, alors, qu'est-ce que t'as fait?
Bah écoute, moi je me fais un petit week-end off, puisque Claire est partie chez sa sœur pour un petit week-end, où elle se fait un week-end de geek en se faisant des marathons Star Wars et Lord of the Rings. Donc moi je me fais mon petit week-end de geek, je traînasse par cette chaleur en calbute toute la journée.
Comme moi,
c'est la fête. Et non, en ce moment, je suis en train de me faire un petit marathon Louis, une série écrite et dirigée par Louis C.K., qui est un comédien de stand-up américain que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'adore. Et puis non, beaucoup de lectures, de petits trucs comme ça, quoi. Enfin voilà, on tue le temps pendant un week-end de grosse chaleur. Eh bien, on va commencer tout de suite avec le gros sujet. Le gros sujet, c'est les rumeurs qui ont un petit peu plombé cette semaine, notamment une première rumeur de Bendis qui montrait une page qu'avait dessinée David Finch il y a longtemps sur les New Avengers, au départ quand ils ont relancé le titre, en disant « Qui est ce gars ?». Alors tout le monde a commencé à croire que c'était Finch qui allait revenir sur les Avengers ou qui allait revenir chez Marvel travailler avec Bendis. En fait, pas du tout. Il s'avère que c'est juste un gars avec un casque, on ne savait pas trop qui c'était, à l'époque on pensait peut-être que c'était Ronin, on ne sait pas qui c'est, donc peut-être que Bendis va le ramener dans ses futures histoires. Bon.
Effectivement, moi c'était une question que vous posez de temps en temps, tu sais, parce que c'est un gars en fait qu'on avait vu sur un teaser et qui avait disparu, où on pensait qu'il était remplacé par effectivement par Ronin, et puis
Mais
c'était jamais vraiment posé la question, et
il
là
n'était pas apparu dans le comics, il était juste sur
non,
une couverture, c'est ça?
voilà, sur une
D'accord.
couverture teaser, l'un des premiers qui avait été dessiné, donc
Alors, on a eu aussi une rumeur sur Eric Stephenson, qui avait écrit sur son blog Retirement, time to do something else. Donc en gros, la retraite, c'est le temps de faire quelque chose d'autre. Donc tout le monde s'était dit, ah là là, Eric Stevenson va partir de chez Image, il va partir à la retraite. Ben non, encore une fois, les gens voulaient trop vite. Et il s'avère simplement que il met son blog à la retraite, mais il continue sa position chez Image, hein, il n'y a pas de
donc oui,
souci.
il est
Sachant
quoi,
qu'il
il
est
est
le
le big
big.
boss d'Image. Ouais, il est éditeur en chef ou un truc comme ça.
Voilà, c'est ça. Donc, le souci, c'est peut-être que justement, avec cette presse comics qui se multiplie et qui se diversifie énormément, et le comics qui a de plus en plus le regard sur lui par la plupart des grandes maisons d'édition, puisqu'avec les films qui rapportent énormément, les plus gros sites, même les sites du type Hollywood Reporter, TMZ, même Fox News, même tout ce genre de sites-là, plus sérieux, entre guillemets, hein, c'est vraiment entre gros guillemets d'ailleurs, se mettent à regarder un petit peu ce qui se passe du côté du comics. Et tout le monde essaie d'aller de plus en plus vite pour avoir les infos exclusives, et finalement on arrive à des grosses erreurs. Alors je sais pas si c'est vous quelque chose qui vous fait chier, ou vous en foutez, en fait peut-être que ça vous importe pas. Moi personnellement je sais que c'est quelque chose que ça m'énerve. De vouloir aller très vite à publier quelque chose pour finalement se rendre compte que c'était faux. Est-ce que
Bah
ça valait
ça
pas le
c'est
coup d'attendre?
le je dirais que c'est le problème de toute la presse en général, hein. Tout le monde veut le scoop qui fait que les gens viendront sur leur site ou achèteront leur journal. Effectivement, je dirais c'est les dérives de la presse généraliste qui commencent à gagner, ben la presse spécialisée en fait.
Ben voilà, mais c'est le problème, c'est que j'ai l'impression que ça gagne de plus en plus le milieu du comics, qui il y a eu son lot de fausses rumeurs, hein, à travers les âges, mais faut dire que ces derniers temps, c'est de plus en plus souvent qu'on a des fausses rumeurs comme ça. À vouloir vraiment aller trop vite et à vouloir concurrencer de par le fait de la multiplication des choses, hein, tout simplement la multiplication des infos, des sites qui en traitent. Et moi, ça me désole un petit peu de voir que on en arrive à tirer des conclusions trop vite, à ne pas réfléchir à ce que l'on dit, et finalement bah de publier quelque chose juste dans le but de publier, quitte à devoir faire un erratum ensuite, on s'en fout, quoi. Sais pas qui y a,
Ouais,
toi.
moi ça m'amuse un petit peu au contraire de voir ces rumeurs. Bon, c'est plus embêtant quand c'est dans des sites qui sont censés être un petit peu plus sérieux. Du coup, c'est vrai que la course à la news. Après, des petites rumeurs quand elles sont annoncées sur des sites spécialisés de comics, moi je trouve ça assez amusant. C'est comme un peu quand on suit les auteurs sur Twitter et qu'on a des petits teasers et tout et on sait pas vraiment ce qu'ils veulent dire. Ça m'amuse. Moi, ça me gêne plus quand c'est des gros sites d'actu qui font ça, qui font ce genre d'erreur.
Ouais, du genre Bleeding Cool, hein, parce que c'est quand même les spécialistes. Hein.
Ouais, mais alors justement, Bleeding Cool, moi, ça m'amuse parce qu'ils font leurs petites spéculations et souvent,
Ah,
ça
mais
tombe juste.
tant que ça reste de la spéculation, je suis d'accord. Quand on commence à annoncer quelque chose comme le coup d'Eric Stevenson, voilà. Je pense que s'ils avaient pris 2 minutes pour contacter la personne avant, ils auraient pas publié une connerie.
Tu te rends compte de ce que tu demandes, vérifier une source, mais ça va pas la tête.
Je sais pas, c'est le minimum, c'est le béaba du travail du journaliste. Moi, jamais je ne publie quelque chose sans recroiser toutes les informations qui sont disponibles. Si j'ai qu'une source, j'en parle pas. J'attends d'avoir plusieurs sources pour être sûr du truc. Jamais je me permettrais de publier un truc si j'avais qu'une seule source, quoi. C'est le meilleur moyen de se planter. Enfin, après, moi, je suis pas journaliste, hein, j'en sais rien. C'est peut-être moi qui ai trop de morale ou trop d'éthique, j'en sais rien,
Oui, pour
peut-être.
ce milieu, oui, je pense, oui.
Ouais, je dois pas faire assez la pute. Alors du coup, bah tu parlais Twitter, Kinged, ça nous amène à quelque chose. On va parler des rumeurs actuelles, puisque bah voilà, ça fait partie des choses. Là, ce sont des rumeurs, mais c'est pas des rumeurs aussi importantes, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. Andy Diggle qui pourrait reprendre Action Comics.
Oui,
Ça pourrait
alors.
être sympa.
Ça pourrait
On
être
parle de
sympa. En fait,
suppositions.
on sait que Grant Morrison va s'en aller après le numéro 16. Donc, qui va pouvoir reprendre ce titre un peu légendaire? Et donc là, c'est une news qui a été postée sur Bleeding Cool et qui fait référence justement à un tweet de Andy Diggle qui disait qu'il venait de décrocher peut-être le plus gros contrat de sa vie. Et bon, a
Qu'ils ont pu
priori, là,
recroiser avec des infos qu'ils avaient eues
voilà, ils ont
dans un
recroisé.
bar.
avec plusieurs infos. Et bon, la rumeur serait peut-être Andy Deagle. Donc Andy Deagle, on sait qu'il a travaillé avec Jock sur comment ça s'appelait, The Losers. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a travaillé sur Six Guns, je crois, chez Marvel récemment.
Oui, il a fait tellement de choses. Bah, et puis récemment, il était avec son compère Andy Lanning sur Resurrection Man.
Voilà, c'est ça.
Qui s'arrête.
Attendez,
lui, avec
vous
cette nouvelle vague.
Andy Deagle et Andy Lanning.
Oui, là tu confonds avec Andy. Oui, non, c'était
Dan Abnett.
Ah oui, pardon. Oh là là, je suis en train de dire des conneries, mais ça c'est le mal de tête.
Ah.
Oui, je suis bête. Oui, pourquoi je... Ouais, bon, c'est pas grave. Voilà, comme quoi ça arrive.
Il avait travaillé sur Loser, sur Six Gun, et je crois pas que chez DC, je sais pas ce qu'il avait fait dernièrement, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant de le voir arriver sur ce titre.
Mais il avait fait Daredevil, et notamment la partie Shadowlands, surtout chez Marvel.
Qui avait pas été très bien apprécié, si je me souviens bien.
Mais... Oui. Ben, ouais, mais pourtant, c'était pas mal. Bon, la fin était pourrie, mais c'était pas mal.
Bah non, pour moi, tout était pourri. Hein.
Et donc
même
dans
le run avant Shadowlands,
dans le même genre au niveau des rumeurs un petit peu, il y a des rumeurs comme quoi on savait déjà que Ivan Reis allait quitter Aquaman après le numéro 16 également, toujours c'est le numéro 16. Et ce serait peut-être aussi le départ de la série de Geoff Johns. Donc il y aurait sans doute une toute nouvelle équipe créative qui reprendrait le titre. C'est un titre qui était monté pas mal dans les charts, qui avait gagné en popularité et en succès critique. Et moi, j'espère que si jamais cette équipe s'en va, j'espère que derrière ça sera d'aussi bonne qualité, quoi.
Qui, d'après vous, pour remplacer sur Aquaman, Geoff Johns?
Oula. Bonne question. Voilà. Scott Lobdell, puisqu'il est partout.
Moi, je verrais bien un James Robinson pour rendre le personnage vraiment très fouillé, très profond.
Ouais, sachant qu'il a qu'une seule série, comme il aura fini avec The Shade, peut-être qu'il pourra avoir un peu de temps pour s'en occuper, mais comme il va faire un peu d'indé en même temps, ça sera peut-être un peu compliqué. Mais non, par contre, moi, ce qui me fait plaisir, c'est ce départ de Ivan Reis sur Justice League, même si je pense que la partie qui va être dessinée par Tony Daniel, ça risque d'être quand même assez sympa. Ivan Reis dans Justice League, je pense qu'ils vont nous faire un arc sur le Martian Manhunter, parce que je sais pas si vous vous rappelez, dans un Justice League, il y avait une splash page dessiné par Ivan Reis, qui racontait justement pourquoi le Martian Manhunter était parti de la Justice League. Il y avait juste une splash page. Je le vois bien revenir pour travailler sur ça, et ce sera assez sympa. Mais ouais, bon.
Je sais pas, moi j'aurais préféré qu'il se barre de Justice League. Hein. Personnellement, qu'il reste sur Aquaman, ouais. Mais bon. Sam, du coup, toi, tu t'es pas trop exprimé sur le sujet.
C'est dommage qu'il s'en aille, parce que effectivement c'était très bon, c'était très très bon, et c'était bien mieux que ce qu'il fait sur Justice League. Maintenant, peut-être que l'arrivée d'Ivan Reis va lui redonner un peu d'inspiration, puisque pour le moment j'ai l'impression que ce n'est pas très bon, justement parce qu'il est soumis à Jim Lee et ouais. aux contraintes de lui fournir des belles pages à dessiner.
Ouais. Ben moi, ce qui me fait peur, c'est qu'avec Ivan Reis sur Justice League, il nous fasse le même problème qu'il y avait avec Jim Lee ou qu'il y a sur Aquaman, c'est-à-dire des histoires qui avancent pas, des histoires super lentes, bourrées de splash pages qui sont superbes, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on achète un comics pour juste des splash pages à ce moment-là, autant acheter un tableau, quoi?
Disons que le problème, c'est que les comics DC sont passés à 20 pages, donc c'est peut-être pour ça que ça donne cette impression de lenteur.
Les comics DC étaient passés à 20 pages déjà depuis le mois de janvier 2011 et on s'en rendait pas compte avant le New 52. Mais là, c'est que sur certaines séries d'ailleurs qu'on s'en rend compte. Sur des séries comme Justice League, comme Aquaman, on se rend compte que y a pas assez. Et d'ailleurs, Justice League d'ailleurs fait même plus puisqu'il y a aussi le backup.
Ouais.
Et même comme ça, on a l'impression de pas avoir assez. Donc c'est véritablement Geoff Johns qui déconne.
Ah ben ça, de toute façon, Geoff Johns sur Justice League, moi c'est son travail que je trouve qui est le moins réussi. Donc
De toute sa carrière, oui.
C'est du blockbuster en fait. Hein. Pour moi, c'est du blockbuster à 300 millions de dollars qui se pose pas de questions. Ouais. Voilà. C'est du Michael Bay.
On va passer sur les rumeurs Marvel et puis on terminera par qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs-là? Pensez-vous qu'elles sont bonnes ou fausses, telles que les rumeurs de Brian Michael Bendis et Eric Stephenson? Et puis pourquoi pas un petit point sur l'avenir. Donc Brian Michael Bendis, justement, avec Salvador Larroca sur Guardians of the Galaxy, une nouvelle série à partir du Marvel Now.
Ça peut donner, s'il nous explique comment Thanos et Peter Quill sont revenus. Hein, Bendis?
T'y crois?
Hein?
Franchement, tu y crois encore? C'est, à mon avis, croire à l'explication, c'est croire à Ultron War.
Oui, non, mais parce que moi, j'ai hâte de voir les personnages revenir, mais sans explication, à chaque fois que je lis un numéro, j'ai l'impression qu'on me tabasse. Voilà. Comme en Cluj, en fait. Sévèrement. Il y a
Combien
sec.
tu paries qu'il nous fera son histoire de Ultron War dans sa nouvelle série Guardians of the Galaxy?
Oh, putain.
Et que ça n'aura
Si t'en paries
absolument
1.
aucune incidence avec ce qui se passe sur Terre. Moi,
Bon.
je le sens gros comme une maison, ça.
En tout cas, par respect pour les lecteurs Marvel, c'est nécessaire qu'ils donnent des explications par rapport à la fin du run d'Anna Blatt et Andy Lanning. Surtout s'ils reprennent la série des Guardians, quoi, mais
Ah mais non, que veux-tu, c'est Brian Michael Bendis, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de faire une page où il peut chier lui-même dans la bouche de Peter Parker, ils accepteront. Ah non, mais
Oh, toi,
sérieusement,
Victory, ça
enfin.
t'a marqué, hein.
Non, 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 mais je veux dire, non, même sans ça. Vraiment, je veux dire, Brian Michael Bendis est capable de faire ce qu'il veut chez Marvel aujourd'hui. D'ailleurs, moi je comprends pas pourquoi il continue d'écrire encore des comics, qu'on lui file le poste de Chief Creative Officer. Parce que
Bah, il a
c'est...
déjà dit que c'était moins payé que ce qu'il faisait,
Bah,
donc.
il réussit quand même à faire encore pas mal de trucs bien, hein, donc
Mais c'est pas le problème qu'il le fasse bien ou qu'il le fasse pas bien. Qu'on lui file ce poste, de toute façon, c'est ce qu'il est réellement. Donc, je veux dire, c'est lui qui dicte l'avenir de l'univers Marvel depuis maintenant 5 ans.
7 ans même.
Oh, je dirais 5, moi, depuis le temps qu'ils se rendent compte que New Avengers soit vraiment un hit. Enfin bon, ben, on continue avec tout ce qui se passe dans l'espace. Jeff Loeb et Ed McGuinness confirmés sur Nova.
Oh putain.
Bon, ça, on pouvait s'y attendre, hein. C'était parmi les grosses rumeurs depuis très longtemps. Bon, c'est toujours pas, ça n'a pas été confirmé encore, mais c'est de plus en plus.
Voilà. En plus,
Le
ça sera
pire,
sans
c'est...
doute le nouveau personnage, le
Ouais,
nouveau
voilà.
Novar.
Exactement ce que j'allais dire. Il y a de fortes chances que ce soit ce fameux Sam Alexander dont on se fout, mais alors, mais incroyablement, on a juste envie de savoir où est passé Rich Rider.
Ouais.
Oui, et puis, enfin, d'un point de vue logique aussi par rapport à AVX, on se demande où est-ce qu'il est passé, parce qu'on l'a vu quand même dans les premières issues, et depuis, il a même pas eu un rôle.
Ah ben non, mais il est tombé dans les pommes.
Oui,
Tu sais,
mais on s'en
rappelle-toi dans le
fout. Oui,
Infinite
mais
Enix.
là, il s'est passé plusieurs mois quand
Ah
même
ben il est toujours dans les pommes.
depuis tout ça.
Il
D'accord.
était
Encore
vraiment
Rich
très fatigué
Rider.
d'avoir coursé le Phénix.
Donc il est dans la même chambre que Cable. C'est ça, ils sont tous les deux, ils sont en train de jouer aux cartes, c'est ça,
C'est ça, c'est
pendant
ça.
qu'AVX se termine. D'accord.
Ouais.
Pour un jeu de patience.
Il faudra
Oui,
m'expliquer
c'est
comment Thanos et Peter Quill peuvent être revenus, et Nova non. Voilà.
ça n'a aucun sens.
Merci Marvel, merci Bendis. On termine avec Kev Walker qui arriverait sur Secret Avengers. Alors peut-être avec Nick Spencer ou peut-être avec Denis Opless.
Sachant qu'il y aura aussi une relance peut-être de Young Avengers, reprise par un des deux.
Ouais, autrement dit, on sait rien et on publie la news juste pour la publier. Bon, franchement, sur ces news, enfin sur ces rumeurs, lesquelles vous pensez réellement vraies?
Ben, Bendis sur les gardiens, ça faisait un moment, et puis on peut quasiment voir son run actuel sur Avengers Assemble comme le prélude, en fait, le prologue à cette série, puisque
Ouais.
c'est lui qui réintroduit les personnages. Donc moi, je pense que c'est vrai, quoi.
Et
Pour
pareil pour
Bendis,
la
pour
rumeur de Loeb, je pense que c'est vrai aussi.
ouais,
Parce que je
malheureusement.
crois que c'était l'équipe qui avait justement fait dans le Point One
Ouais,
le petit
c'était
extrait
eux.
sur Nova. Donc ça paraît logique qu'ils fassent une série Nova avec cette équipe créative, quoi. Mais après, à voir.
Ok, et on va terminer, puisqu'on en est au rang des rumeurs et des spéculations, sur l'avenir d'essai. Que pensez-vous qui disparaîtra lors de la prochaine vague et que pensez-vous qui pourrait arriver lors de la prochaine vague?
En
Alors
fait,
pas celle qui va démarrer en octobre, hein, celle d'après.
le truc, c'est qu'on a vu qu'il y a pas mal d'auteurs qui commencent à dire qu'à partir des numéros 16, il y aura peut-être des changements créatifs. Il y a justement Rob Liefeld, par exemple, qui a dit que je crois que sa série Grifter allait s'arrêter. Enfin, en tout cas, qu'il allait la
Je sens
quitter.
Sam très content derrière.
Donc de plus en plus, on se dit qu'il y aura peut-être une nouvelle vague de titres en janvier ou en février. Bah, on sait qu'il y a des, en général, ils vont annuler les séries qui se vendent le moins bien. Donc, c'est vrai que parmi les séries qui se vendent le moins bien, on retrouve des titres comme Grifter, comme Voodoo, comme qu'est-ce qu'il y a
Je
d'autre,
comprends pas
comme
d'ailleurs pourquoi ça sort
les titres
encore ça.
Wildstorm, en fait.
comme Frankenstein aussi, qui se vend pas énormément.
Malheureusement.
Bon, il y a un certain nombre de séries sans doute qui va disparaître. Et dans les titres qui pourraient commencer. Voilà, enfin, je veux dire, on en parlait en début d'émission, mais si on pouvait faire revenir des personnages qu'on avait vus disparaître, je sais pas moi, comme par exemple René Montoya et compagnie,
Ouais, ça,
faire un titre sur The Question ou je sais pas moi sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre
Bah la grosse rumeur c'est le retour des Wildcats de Jimmy.
Ah oui, c'est vrai,
c'est
il y avait
très c'est pour ça qu'il quitterait Justice League justement.
Oui, et puis du coup, ça expliquerait que pas mal de séries avec des personnages Wildstorm s'arrêtent, parce que peut-être du coup, elles seraient rassemblées dans une seule et même série.
Ce qui serait pas con.
On retrouverait du coup Grifter dedans, Voodoo, les personnages qu'on a dans Deathstroke actuellement, parce qu'il a, ils ont réintroduit pas mal de personnages Wildstorm aussi. Mm. Donc, pourquoi pas. Mais, on attendant d'en savoir plus, mais ça risque de bouger encore pas mal. En début d'année, je pense.
Perso, je parie aussi sur un nouveau titre Justice League pour remplacer JLE.
Ouais, c'est vrai. Bah, on avait parlé
un pari moment plus risqué, je pense.
Ouais, on avait parlé un moment peut-être d'une team Black Ops, un peu de Justice League. Avec
bah, c'est surtout que Marvel lance des titres Avengers, ça n'a plus savoir qu'en faire. D'ailleurs, je sais pas combien on va arriver là. Ça commence à devenir un peu ridicule. Donc, en face, DC peut très bien lancer plusieurs autres de séries Justice League sans que ça pose de problème.
Et je veux pas trop spoiler, mais moi je vois bien venir un titre en janvier. Et on va pas dire pourquoi, hein, mais je vais juste donner le nom. Je vois bien un titre Black Lantern, mais bon, voilà quoi.
Ouais, ça me paraît très risqué quand même.
Mais pourquoi pas ? Je sais pas.
Je pense qu'il faudrait annuler Red Lantern.
C'est une théorie, hein, mais bon.
Bon, ça finira annuler Red Lantern, ça, de toute façon.
Ouais. Ouais, espérons pour un titre Bat Family.
Oui, encore. Il y en a pas assez, hein.
Non mais un titre qui s'appelle vraiment Bat Family quoi.
Ouais. Ouais, mais il y a toujours cette rumeur qui avait été lors du 1er avril, ils avaient annoncé une série The Robins, mais je crois que c'était quand même quelque chose qui était pas vraiment fondé quoi, cette rumeur là même.
Sachant que ça pourrait tenir, je pense, une série sur les Robins.
Ouais, peut-être du coup permettre de réintroduire les personnages comme Cassandra Cain et aussi Stephanie Brown quoi, mais
ouais, ça serait pas mal. Allez, on va continuer avec le reste de l'actualité et notamment la nouvelle équipe créative et la nouvelle direction pour Journey into Mystery qui a été annoncée par... J'ai perdu mes notes et là, j'ai l'air d'un con. Catherine Immonen qui reprendrait le titre et le titre, au lieu de se centrer sur Loki, se centrerait sur Sif cette fois-ci.
Ça pourrait être intéressant.
Le produit vaisselle Non, elle est très mauvaise, pardon.
Oh. Ah, puis celle-ci, je peux pas l'effacer au montage.
J'avais oublié qu'il y avait pas de montage.
ouais, bah, ça peut être quelque chose de plutôt sympathique. Quand on voit la qualité du titre Journey into Mystery, Catherine Immonen sur un personnage féminin en plus, elle s'en sort plutôt pas mal. Moi, je dis pourquoi pas. Sam, t'avais l'air plutôt emballé aussi.
Oui, pourquoi pas. Sachant que pour le moment, la formule de Journey into Mystery ne m'intéresse pas. Mais vraiment pas du tout.
Ah bon?
Oui. Non, là, Little Loki, non, ça me...
Mais ça...
C'est vachement bien, pourtant.
Ça me semble assez logique par rapport à la sortie du prochain film de Thor, où je pense que le personnage de Sif aura un rôle plus important aussi, comme ça risque de se passer plus sur Asgard et les mondes magiques. Mettre en avant peut-être un personnage dans le comics.
Là, surtout que pour les quelques épisodes de Matraction que j'ai lus, le personnage est complètement délaissé.
Oui, mais
à part être là pour être baisé par Thor, c'est pas un grand rôle.
Oui, c'est vrai en plus. Je suis
malheureusement
d'accord avec toi. Ça ne sert pas à grand chose. Bon, bah, on verra. Moi, je l'attends ce truc-là parce que j'aimais vraiment beaucoup Journey into Mystery par Kieron Gillen et Loki, donc et centré sur Loki, disons. Donc, pourquoi pas sur Sif, voir s'ils peuvent réitérer l'expérience et réitérer l'exploit surtout, de nous intéresser à un personnage mineur du cast de Thor. On continue avec le procès Superman qui refait parler de lui, ce procès sur les droits. Appartient-il à DC ? Est-ce que les membres de la famille des créateurs, donc Siegel et Schuster, peuvent récupérer une partie de leurs droits ? Aujourd'hui, le juge qui s'occupe de l'affaire devait donner sa décision, et finalement, il a décidé de repousser à plus tard, on ne sait pas quand pour le moment. Mais il a décidé surtout de ne pas entendre les différentes parties et de rendre sa décision lui-même. Donc on verra ce que ça a donné. Alors en tout cas, l'histoire, c'est tout simplement que celui qui s'occupe de la fortune de la famille Schuster, ou S. Siegel, j'ai un doute.
Bah, étant donné qu'ils sont fauchés tous les deux, ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment une fortune.
Je suis vraiment perdu ma note. C'est la famille Schuster. Mmh. C'est ça. En fait, essaie de récupérer les droits. Il a pris en main la fortune de la famille et il a décidé d'essayer de récupérer les droits. Or, l'histoire, c'est qu'en 92, quand Schuster est mort, il avait beaucoup beaucoup de dettes et sa sœur et donc son beau-frère, donc le mari de sa sœur, ont décidé de demander à Warner de faire un geste pour les aider à régler cette dette très très importante. Il avait vraiment énormément de dettes, dont déjà 20 000 dollars de dettes de carte de crédit. Vous imaginez ce que ça pouvait représenter en 92.
Ouais.
Du coup, ils ont réglé toutes les dettes. La contrepartie, c'était que ils ne demandent pas à récupérer les droits. Tout simplement. Chose qu'ils avaient signée. Or, à l'époque, cette loi était... Enfin, le problème, c'est que ce jugement n'est peut-être pas... Enfin, cet accord n'est peut-être pas valide aux yeux de la loi, étant donné qu'à l'époque, en 92, seuls les descendants purs pouvaient, ou l'épouse, pouvaient décider de ne pas céder les droits. Il n'y avait pas les représentants légaux de la fortune de la famille n'avaient pas le droit. C'est une loi qui a été modifiée en 98. Or, cet accord avait été signé avant. Mais la personne qui s'en occupait, donc sa sœur, avait renouvelé cet accord au-delà de 98 et donc n'avait pas décidé de réclamer les droits. Depuis est arrivé un certain, je reprends mes notes, putain, je suis perdu dans mes notes, Mark Warren Perry, qui est celui qui gère la famille Siegel, la famille Schuster, pardon, et qui a décidé de récupérer les droits et de lancer cette action en 2003, et ce n'est toujours pas réglé. Vous voyez à quelle lenteur peut travailler la justice.
La justice américaine avec les 150 appels qui sont possibles.
Et pour compliquer la chose, parce que c'est pas assez compliqué déjà comme ça, il a engagé un avocat, qui est l'avocat qui gère aussi ceux de la famille Siegel, qui voulait essayer de récupérer une partie des droits. Et c'est aussi un avocat qui a fait parler de lui à l'époque où la famille Kirby avait essayé de récupérer les droits de toutes les créations de Kirby chez Marvel. Vous voyez que le gars a travaillé là-dedans. Et là où c'est très bizarre, et là où il y a des très gros problèmes par rapport à ce procès, c'est que ce monsieur récupérerait la moitié des droits que la famille Schuster récupérait. Mais il a négocié exactement la même chose avec la famille Siegel. Donc, chacun récupérant une partie, donc 25% pour... alors, que je reprenne les trucs. Grosso modo, il serait dépositaire du... Il serait majoritaire même carrément de la franchise Superman, puisqu'il aurait 47,6% des droits, je crois. Alors que c'est un mec qui n'est absolument pas descendant. Donc DC lui avait intenté un procès en essayant de montrer qu'il était là que pour le business et pas vraiment pour défendre la famille. Bref, c'est tout un imbroglio. Et donc la décision qui va être rendue par ce juge, le juge Otis Wright, sera de savoir si cette demande est valide ou non. Donc on aurait dû avoir la réponse, il aurait dû rendre son jugement aujourd'hui, on aurait dû avoir la réponse, enfin pas aujourd'hui, en tout cas il devait écouter les différentes parties aujourd'hui. Il a décidé de ne pas les écouter, de rendre sa décision, on ne sait pas quand. Mais vous voyez que c'est une histoire assez compliquée. Je vous passe les détails de documents qui ont été volés de cet avocat qui a fait appel au FBI en disant que les documents ont été volés, etc. C'est vraiment une histoire de malade, il y a de quoi faire un film là-dessus.
Mais ils vont finir par en faire un film, je pense.
Franchement, bon, dès qu'on aura plus d'infos, dès que la décision sera rendue, on vous tiendra au courant, mais voilà, le procès est toujours en cours. Si la décision s'avérait positive et qu'on devait rendre les droits de Superman, en tout cas de certaines des créations, parce que c'est pas tous les droits de Superman, c'est certaines des créations de Superman. Donc Superman, Clark Kent, Lois Lane, Jimmy Olsen, Lex Luthor, à l'époque, Nalana Lang, Mr. Mick Ziplick, Superboy, Supergirl, le Daily Planet, Krypton, la Kryptonite et Smallville. Voilà.
Effectivement, c'est pas tout le mythe, hein.
Ah, c'est pas tout le mythe. Ah bah non, il y a pas mal de choses encore qui ne sont pas exploitées, mais voilà, ça comporte tout ça. Les droits devraient s'arrêter le 31 octobre 2013.
D'accord.
Ouais, ouais. Donc voilà, dès qu'on a plus d'infos, on vous tient au courant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ces histoires de procès.
Dans le cas présent, en fait, le problème, c'est que DC a vraiment maltraité Schuster et Siegel, parce que ils se sont fait un fric absolument ahurissant sur Superman, alors que les auteurs, eux, ont fini dans la pauvreté la plus absolue. Donc effectivement, là, il y a un mauvais traitement qui est évident. Ensuite, je pense qui voudrait mieux essayer de régler ça à l'amiable par un dédommagement conséquent de la part de Warner, puisqu'on sait que la Warner détient DC, donc ils ont...
Alors, il y avait un dédommagement hein, pour la famille Schuster quand elle avait demandé à ce que DC règle, enfin que Warner règle les dettes. Les
non, dédommagements... mais je veux dire un vrai gros dédommagement avec voilà, un chiffre à bah, 7-0, quoi, par exemple.
Ah bah non, le chiffre était pas 7-0, je peux te donner le chiffre. Ouais. Apparemment, le chiffre portait sur une pension de 25 000 $ par an, plus les soins médicaux oui, et dentaires.
Voilà, par rapport à ce que rapporte Superman même encore aujourd'hui, alors que...
Mais voilà, bon, ils avaient demandé des augmentations, et notamment après 98, d'où ce fait qu'elle ait réclamé une augmentation sur cette pension qui lui est attribuée, et qu'elle avait renouvelé par là même le fait de ne jamais demander à réclamer les droits. Donc c'est pour ça que y a beaucoup de problèmes. Est-ce que cette décision est valide? Est-ce qu'elle n'est pas valide? C'est tout l'enjeu de ce que doit décider ce juge. J'aimerais pas être à sa place, à ce monsieur, parce que ça va être vraiment un vrai bordel à gérer. Mais oui, effectivement, il y avait une pension. Donc apparemment, les droits qu'ils auraient reçus depuis 1992 s'élèveraient à 600 000 $. Ce qui finalement, en 20 ans, est pas grand-chose.
Bah non, surtout comparé, je dis, par rapport à ce que Superman rapporte.
Rappelons qu'en 92, c'était la mort de Superman et que ça a vendu par paquet.
Ouais. Ainsi que le retour de Superman qui aussi.
Ouais, bah oui, enfin, c'est tout l'ensemble, quoi.
Ouais.
Bref. Bon, bah, c'est un peu triste de voir ça quand même, Kinghead.
Bah oui, non, mais c'est clair que c'est un peu triste. On s'attendrait à ce que les auteurs soient respectés et puis qu'ils méritent un peu leur part du gâteau. Bah, ça me fait penser aussi au procès qu'il y a en ce moment entre Kirkman et Tony Moore aussi. Donc, si ça se trouve, ça va prendre autant de temps à se régler. Donc, c'est pas fini d'être.
Bah déjà, Tony Moore et Kirkman, apparemment, ça dure depuis 2005.
Ouais. Ouais, donc bon, c'est des choses qui durent. Bon, après, ça, ces choses-là n'ont pas énormément d'impact sur le monde du comics, sur nous en fait, nous lecteurs.
Là, ça risquerait d'en avoir, étant donné que DC serait devrait reverser une partie de l'argent qu'ils gagnent s'ils utilisent certains des concepts que j'ai cités tout à l'heure.
Ouais, mais dans tous les cas, je pense qu'ils préféreront payer que de
perdre Superman,
changer le mythe.
Bien sûr, mais ils essaieront d'éviter de l'utiliser. Donc ça risque de... Ils changeront pas le mythe, ça c'est clair, mais ils éviteront de l'utiliser. On se rappelle de cette mini-série qu'avait fait Jeff Jones, Secret Origin, qui réintroduisait la Légion, qui réintroduisait Superboy... ou des suites de la décision rendue du procès. Mark Waid avait essayé de changer les choses avec Birthright. À chaque fois, ça nous remodifie l'origine en profondeur, quoi.
Mais ouais, déjà avec les New 52 aussi, ils ont changé pas mal de choses. Donc,
ils ont éjecté Superboy.
Voilà, ouais. En tout cas, c'est très triste et j'espère que ce sera vite réglé, même si c'est un peu un vœu.
Allez, on va passer maintenant à la partie Screen News. Et on va rester dans le triste avec l'annonce du décès de Tony Scott.
Oui, aujourd'hui. Très triste. Un réalisateur moi que j'aime beaucoup en fait. C'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films très efficaces. C'est des bons petits films d'été. Et par contre, il a fait aussi quelques petites perles de films d'action, comme par exemple Man on Fire, qui est peut-être l'un de mes films d'action préférés avec Denzel Washington, qui était vraiment énorme dans le film. Et puis bon, il avait travaillé aussi avec Quentin Tarantino sur True Romance, qui était aussi un très très bon film. Donc bon, c'est voilà. Puis bah, on sait qu'il a bossé pas mal aussi avec son frère au niveau production de grosses séries.
Numbers notamment, et actuellement The Good Wife.
Voilà, et puis même
peut-être tous les deux d'assez gros succès. Hein.
Ouais, donc c'est triste, il avait 68 ans, c'est ça?
Ouais, mais le problème c'est que son décès n'est pas qu'un simple décès, c'est surtout un suicide.
Ouais. Donc c'est assez triste, il commence à y avoir des informations sur peut-être les raisons derrière son suicide, comme quoi il aurait peut-être été atteint d'un cancer inopérable. Et donc bon, mais bon, ça, il n'en reste que c'est vraiment très triste et qu'on a une pensée pour les frères Scott et puis enfin pas la série hein. Pardon.
Un placement.
Non et puis voilà. Puis il y avait aussi un petit côté Actu Comics parce qu'à un moment il était il y avait des rumeurs comme quoi il allait travailler avec Mark Millar sur l'adaptation de Nemesis, je crois. Et
si j'osais une blague d'humour noir, je dirais que c'est ça qui l'a fait suicider, mais bon.
Malheureusement, j'y ai pensé. C'est...
Et, Depuis, je crois que le projet est entre les mains maintenant de Joe Carnahan. Donc il y a eu des changements.
C'est ce que dit Mark Millar.
Ouais.
Sachant que Mark Millar aime bien balancer des rumeurs permanentes sur ses projets ciné qui n'aboutissent en général jamais.
Mais bon. Donc ouais non et puis bah voilà quoi, Top Gun, c'est peut-être un film moi que j'apprécie pas énormément, mais bon il a quand même marqué toute une génération avec Take My Breath Away et compagnie quoi.
Oh là là, quelle chanson de merde. Oh, tu en as foutu dans la tête jusqu'à la fin de la semaine.
Avoue que c'est ton péché mignon.
Ah non, mais le pire c'est qu'en plus maintenant je crois que je vais l'avoir dans la tête jusqu'à la fin de la soirée, ça va être horrible.
tu peux me remercier Steve. Donc voilà, donc c'est très triste.
Voilà. Moi j'avoue que j'étais assez surpris quand j'ai appris qu'il s'était suicidé. Là on a eu les infos juste avant d'enregistrer comme quoi il aurait eu peut-être une tumeur au cerveau inopérable, mais c'est vrai que je me disais, mais à 68 ans, on n'a pas l'habitude d'entendre quelqu'un qui se suicide à 68 ans. C'est assez rare. Généralement, les personnes qui se suicident ont, je sais pas, 40, 50 ans ou plus tard, rarement après, quoi.
Ouais, en fait, c'est vrai que par rapport à des maladies, ça arrive quand même assez souvent, je pense.
Effectivement.
Quand c'est âgé. Quand c'est lié à ce genre de choses.
Moi, c'est plus ça qui m'a surpris, c'est le fait qu'il soit suicidé, tout simplement, que le fait que, qu'il soit décédé, hein. Sam, c'est quelqu'un que tu aimais bien, peut-être.
De suicide,
Non. Tony Scott, c'est quelqu'un, c'est un réalisateur que tu aimais bien, ou peut-être.
Comme tout le monde, hein. C'était quand même un bon faiseur de films de divertissement, en fait, hein. Tu prenais pas la tête, et. Voilà, on passait un bon moment à aller les voir, donc c'est plus ce qu'on peut dire pour beaucoup de films, hein. N'est-ce pas, le cinéma français? Voilà, ça s'est fait.
Mais oui, mais
voilà, mais c'est vrai, un peu choqué ce matin quand j'ai vu les news, parce que voilà, on s'attend pas quand même. On pense à la famille, parce que ça va être un moment difficile pour eux.
Ouais, je pense. Toujours plus difficile de se remettre d'un suicide que d'une mort naturelle. Et ben on va continuer avec une mort, c'est la mort du projet Daredevil chez la Fox, qui va donc.
Bah, tant mieux. Là on est
alors ça c'est beaucoup moins triste.
Mais là c'est une mort qui nous fait plaisir effectivement. Puisque voilà le dernier réalisateur s'est barré.
Daredevil plutôt on espérait ne plus s'en souvenir et
ouais, le réalisateur est parti.
Ça n'a pas été encore complètement officialisé par Marvel, mais je crois que il fallait qu'il fasse un film ou qu'il lance un film avant la fin de l'année et que c'est pas le cas.
En octobre. C'est octobre, la date limite.
Voilà, c'est ça. Donc, et puis le réalisateur qui était attaché au projet, donc Joe Carnahan aussi, il a dit que c'était fini cette histoire. Il en a même profité un peu pour balancer des petits travaux préliminaires sur sa façon un peu de représenter Daredevil. Ça avait l'air très sympa, très film noir, assez violent.
Il voulait replacer le personnage dans les années 70.
Ouais, voilà.
Ce qui n'était pas une idée conne, puisque le Hell's Kitchen d'aujourd'hui,
ça ressemble pas à ce
du tout, puisque le quartier maintenant a été rebaptisé Clinton, si ma mémoire est bonne. C'est plutôt un quartier, on va pas dire huppé, mais plutôt bourgeois maintenant. C'est-à-dire que les promoteurs se sont emparés de tout le quartier, donc ils ont viré un peu tout le monde. Donc c'est plus vraiment le quartier chaud que c'était dans les années 70-80.
En tout cas, donc du coup, la Fox va perdre sans doute les droits de Daredevil. Donc ça veut dire que peut-être qu'on aura un reboot de Daredevil par Marvel. Donc ça peut être sympa s'ils arrivent à l'intégrer aussi dans le Marvel Universe des films. Moi j'ai un petit rêve, ce serait qu'ils nous fassent un petit film avec Daredevil et puis qu'ils réintroduisent aussi le Punisher avec. Ce serait un bon petit duo dans le film. Une petite confrontation sur les deux personnages, ça pourrait être cool.
Personnellement, j'espère surtout une série télé. Parce que c'est vraiment un personnage qui, pour moi, fonctionnerait bien en série.
C'est vrai qu'il y a le côté, en plus, avocat, qui marche pas mal dans les séries télé. Si on y rajoute le côté super...
T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'effets spéciaux, en plus.
Oui, c'est clair. Juste des câbles.
Voilà. Si t'arrives à faire tenir Smallville pendant 10 ans avec un budget de 3,50€, tu peux faire Daredevil.
Qui sait, on peut peut-être lui produire une destinée ensuite à la Smallville avec Brian Michael Bendis lui-même qui viendra écrire des épisodes. Bon, c'était un de ses bons travaux, donc on va pas trop critiquer. On continue sur le cinéma Marvel avec Avengers 2 qui obtient une date définitive de sortie qui serait le 1er mai 2015.
Sachant que donc si ça sort vraiment à ce moment-là, il y aura pas, il y aura aucun film en face. Hein. Soyons clairs, il y aura Avengers 2.
Trois ans à l'avance, moi je dis que il y a 50% de chances que ce soit pas la vraie date. Mais
bah, en général, le mai c'est une bonne période hein, pour les gros films d'action.
Sortir le 1er mai, c'est pas mauvais puisque comme c'est la fête du travail et que c'est international.
Mmh. Ah non, bah ça fait plusieurs fois qu'on a les films en avance nous en France, donc ça sera peut-être pas, ça sera peut-être même un peu plus tôt pour nous. Donc on va pas se plaindre.
Joss Whedon nous avait avantagé pour Avengers numéro 1. Nous avantagera-t-il pour le numéro 2?
Et bah, ça a surtout plutôt bien marché au niveau business parce que il y a eu un tellement bon bouche à oreille que les Américains ils attendaient le film avec une impatience folle.
Voilà. Ah, ils sur le grill en fait avant.
Ils aiment pas quand c'est pas vu les premiers. Hein.
Mmh. Ouais. Bah, surtout quand là le reste de la planète leur a dit putain le film est génial, le film est génial.
Ah oui. Et quand on écoutait les podcasts américains, ils étaient tous verts. Hein, que...
Ouais.
C'est pas mais rappelez-vous, on a vu la même chose avec Alien 4.
Oui, là,
oui bon, la qualité n'était pas la même, mais
c'est même moins marqué. Ça.
Mais non, mais c'était vrai, on l'avait eu une semaine avant, je crois, ou deux trois jours avant. Je me rappelle qu'à l'époque, ça avait fait déjà grand bruit qu'un film, un film américain sorte, enfin en tout cas avec des capitaux américains sortent avant chez nous.
Pareil pour les films X-Men de Bryan Singer.
Je me rappelle pas ça. Tiens, tu vois.
Parce que en fait, Bryan Singer aime bien sortir les films avant en France.
Mais il a raison. Bon bah, on continue avec Guardians of the Galaxy. Où on a un début de plot. Sam.
Fait peur. On a le pitch.
Sam, vas-y, je te laisse faire, vu que ça fait peur.
Fait très très peur, le pitch, puisque ça raconte l'histoire d'un pilote d'avion, enfin de chasseur, je pense, américain, qui tout d'un coup se retrouve dans l'espace avec des personnages qui sont dans une quête et qui sont poursuivis.
Oui, qui ont l'air d'être dans anciens prisonniers. Oh, bizarrement, ça me rappelle le scénario de Farscape.
Moi, ça m'a surtout rappelé Green Lantern. C'est plus les mauvaises parties.
Oui, mais c'est peut-être plutôt un pilote de navette spatiale.
Mm. On peut imaginer. Oui, bah, ça me rappelle d'autant plus Farscape. Ouais. Parce que le scénario de Farscape, si vous connaissez pas la série, c'est un mec qui a fait une expérience autour de la Terre en utilisant la gravité de la Terre et pour se projeter, et qui, en se projetant à cause d'une éruption solaire à ce moment-là, se retrouve projeté à l'autre bout de la galaxie et se retrouve avec un vaisseau de prisonniers. Ah, bizarrement, ça ressemble énormément à ce que j'ai lu là sur le pitch.
Ça ressemble beaucoup.
Ça ressemble aussi à Flash Gordon. Hein.
Oui aussi.
Et dans le même genre, ils nous ont sorti aussi le synopsis officiel de Wolverine qui va sortir, où Wolverine suit Logan, le guerrier éternel et outsider au Japon. Là-bas, l'acier des samouraïs va croiser les griffes d'adamantium, alors que Logan confronte une figure mystérieuse de son passé dans une bataille épique qui le changera à jamais. Voilà.
Alors. On va résumer, va y avoir Sabertooth, va y avoir Silver Samurai, va y avoir Mariko. Moi, je vois ça comme ça.
Sabertooth, je sais pas.
Moi, je suis pas la figure de son passé.
Mais par contre, je crois qu'il...
Bah, Viper.
Ils avaient tweeté récemment que c'était pas canon avec le premier film, je crois. Enfin, ils essayent
de... Non, c'est un film isolé. Voilà. Oui, parce que le premier Wolverine, on essaie tous de l'oublier.
Je crois que tout le monde essaye de l'oublier.
Est-ce qu'il y en avait déjà eu un?
Ah bah tu vois, ça marche déjà,
tu l'as oublié, c'est bien,
tu l'as oublié, c'est cool, ça marche.
On va passer
du coup... Recette, Steve.
Ma recette, c'est je retiens pas les films pourris. Ah si, je m'en rappelle malheureusement. On va passer du côté de chez DC avec, pas un vrai truc DC, mais un épisode spécial de Robot Chicken, spécial DC. On avait eu un trailer, ça, qu'est-ce que vous en avez pensé?
C'est juste, c'est à mourir de rire, enfin déjà il y a 3 minutes de trailer... plein de vannes, plein de blagues, énormément de caméos de tous les personnages de l'univers DC. Je pense que ça va être un truc assez excellent. Et c'est cool que DC ils leur permettent d'utiliser leurs icônes pour des trucs complètement débiles. Et même si ça leur fait de la pub, hein, mais il y a un côté un peu mad, je trouve, justement de voir les personnages DC à cette sauce. Donc moi j'attends ça avec impatience.
Sam.
Je regarde pas Robot Chicken, donc j'ai aucune idée de ce que ça peut donner.
Bah moi non plus, tu vois, j'avais dû voir quelques extraits sur internet.
Mais... Ah moi j'ai déjà vu quelques épisodes, c'est vraiment très très bon. Donc pour ceux qui connaîtraient pas la série, c'est en fait grosso modo que de la pâte à modeler, que de l'animation comme ça. C'est derrière de la création de la série, on a Seth Green notamment, donc celui qui jouait le personnage de Oz hein, dans Buffy.
D'accord, ok.
Qui est assez comique et c'est vraiment une grosse satire de tout ce qui est geek mais aussi télévision politique, enfin tout le monde en prend plein la gueule.
Moi, j'avais vu des extraits où en fait ils parodiaient Star Wars en fait. Donc
et ils ont fait des parodies de tout, mais de tout. Tout ce que tu peux imaginer, ils l'ont fait en parodie.
D'accord.
Et donc ça sera pour la 6e saison. Moi, je parle voilà. Je pense que tout comme tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui jouaient à WoW à l'époque, même s'ils ne regardaient pas South Park, ont regardé l'épisode spécial de South Park spécial WoW. Je pense que tout lecteur de DC, même s'ils ne regardent pas Robot Chicken, regardons cet épisode. Bon, pas de date encore hein, pour la diffusion, je crois pas. À moins que vous l'ayez vu passer et que je l'ai raté.
Non. C'est pas en octobre, non ?
Ah, je sais pas. J'ai pas fait gaffe.
Non, septembre, en septembre.
En septembre, eh ben, ça va arriver plutôt que prévu, là.
Ouais,
tant mieux.
On va continuer avec DC et cette fois-ci les jeux vidéo. Alors pour ceux qui jouent encore à DC Universe Online, une nouvelle extension arrive qui s'appellera The End of Fate. Et donc il y aura le Dr. Fate.
Voilà.
Il y a des gens qui y jouent encore ?
Bah, je n'y joue plus, moi. Mais c'était sympa, moi j'avais bien aimé DC Universe Online. Maintenant, en plus, il est free to play, donc.
Ben ouais, mais moi je l'ai pas commencé. Claire l'a essayé. Quand elle m'a parlé de la maniabilité du jeu, j'ai décidé de pas y jouer.
Ben, c'est assez spécial. C'est ça se joue à la manette en fait, presque.
Ouais, mais voilà. Mais moi je joue sur PC à des MMO et il est hors de question que je mette une manette pour en jouer quoi.
Mais par contre, c'est très riche au niveau des personnages qu'on rencontre. On retrouve vraiment tout le DC Universe. C'est assez intéressant. Bon voilà.
Si un jour j'ai vraiment le temps et que j'ai vraiment rien à foutre.
Par contre, ça, ce qui m'intéresse plus là, c'est le petit teaser qu'ils ont montré sur Catwoman dans Injustice, le jeu de baston de l'équipe de Mortal Kombat. Je pense que ça devient vraiment un jeu qui m'attire de plus en plus. Même si on retrouve vraiment beaucoup la jouabilité et puis les animations qu'on a dans les Mortal Kombat. Donc ça fait.
Moi, j'ai regardé le trailer, j'ai rien compris.
On a l'impression que c'est un peu un palette skin où ils ont juste changé les skins de Mortal Kombat pour mettre des personnages DC. Mais bon, il n'empêche que ça a l'air assez kiffant. Il va y avoir, je pense, un bon casting.
Ça bouge de partout. En regardant le trailer, vous aurez une idée aussi du casting, hein, déjà parce qu'on la voit se battre avec plein d'autres personnages. Mais alors, moi, franchement, ça a bougé dans tous les sens. J'ai rien compris. J'ai cru que j'allais faire une crise d'épilepsie.
Non, mais t'es trop vieux aussi.
Ouais, mais voilà, c'est ça. Je crois que je suis trop vieux pour les jeux de baston. Sérieusement. Sérieusement, je suis vraiment trop vieux pour ça, quoi.
Tu vois pas les frames et tout, t'es pas là où.
Ah non, mais c'est hallucinant, quoi. Ça bouge de partout, ça pète de partout. J'avais du mal à suivre les personnages à l'écran. Je me suis dit non, c'est bon.
Non,
c'est
ça a l'air très sympa. Et les petites rumeurs sur les deux prochains personnages qui vont être annoncés, ce sera Green Lantern et Aquaman. Il y a des petits des dessins préparatifs qui ont tourné sur le web. Voilà. Moi, après, le seul truc qui m'embête, c'est que comme ils ont retravaillé les costumes. Je m'attends au DLC pour télécharger les costumes originaux. Et ça me fait un peu chier, mais.
Ouais, ça c'est clair. Ou alors le costume New 52.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais comme ils ont fait une esthétique un peu particulière là, enfin bon.
Et on termine cette partie Screen News avec un trailer du jeu Star Trek, qui serait censé faire le pont en termes d'histoire entre le Star Trek de J.J. Abrams et sa suite. Où on voit l'équipage affronter notamment des Gorns.
Ouais, ça a l'air plutôt sympa. On retrouve un peu l'ambiance d'un Gears of War avec le côté coopératif mis en avant. Beaucoup de scènes de combat où en fait on se met en couverture et on tire un peu à l'aveuglette, justement ouais. Comme dans Gears of War. L'esthétique est bonne, ça reprend vraiment l'esthétique des films. Je crois qu'il y a même les personnages ont été vraiment modélisés par rapport aux films aussi. Pourquoi pas.
Bah alors, moi j'ai toute la vie inverse de toi en fait.
Mais toi c'est parce que t'as pas aimé le film de J.J. Abrams.
Ah si, je l'ai aimé, à part le fait qu'il change complètement la continuité établie depuis 45 ans, mais je l'ai
mais
aimé.
Mais non, tu dis que c'est une réalité parallèle.
Le film est bien, c'est pas le problème. Non, c'est juste que c'est pas du tout ce que j'attends d'un Star Trek, quoi. Un Star Trek, c'est absolument pas du gunfight, des explosions de partout, enfin, c'est pas ça, Star Trek pour moi.
Il y a déjà Star Trek Online pour toi, si tu veux.
Ouais, enfin...
Avec l'exploration de merde.
Testé et pas approuvé.
Par contre, il nous manque un simulateur de vols spatiaux de qualité sur console. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu ça.
Te conseille d'essayer Star Trek Online parce que franchement, moi, ce qui m'a arrêté, c'est cette jouabilité dans l'espace qui est absolument dégueulasse, quoi. C'est hyper dur à manœuvrer le vaisseau et c'est chiant, quoi.
Bah, il n'est pas fait pour bien manœuvrer ce vaisseau.
Mais je sais pas, moi, pour moi, Star Trek, c'est plus des quêtes, de l'exploration, de la diplomatie avec les races. C'est pas du gunfight, quoi. Reprenez toutes les séries de Star Trek, regardez les gunfights, il y en a pas 150 000, quoi.
Ouais, mais il y en a plus dans le reboot de J. Abrams, donc c'est peut-être plus cohérent.
Oui, il se passe des trucs.
Il y a un peu d'action.
Quoi, tu insinues qu'il se passe rien dans Star Trek, Sam ?
Non, j'ai jamais dit ça.
Attention, hein. Attention. On va terminer avec le bash de la semaine, Kinghead.
Oui, moi je crois que j'ai un petit bash. C'est plus l'actualité cinéma et un peu geek. Je suis allé voir le. Moi, je m'attendais vraiment à de la merde et c'était de la merde. C'était le remake de Total Recall, qui pour moi est un des grands films cultes de SF, le film de Verhoeven. Et donc là, le nouveau film est vraiment complètement à la ramasse. C'était vendu comme étant plus proche de la nouvelle de Philip K. Dick, mais en fait c'est encore pire. Ils ont pris l'histoire de Verhoeven, ils ont changé des trucs, mais c'est plus proche de l'histoire de Verhoeven que de la série, enfin que de la nouvelle originale. Et tout est mauvais en fait. On y perd toute la substance intéressante et irrévérencieuse du film de Verhoeven. Le film est chiant. C'est vraiment une daube quoi. Donc je comprends pas.
Len Wiseman.
Ouais voilà. En plus, le réalisateur est vraiment à la ramasse. Il y a que Kate Beckinsale, je trouve, qui s'en sort un petit peu dans le film, mais elle est quand même pas au niveau du côté vicieux de Sharon Stone dans l'original, donc voilà. Ah bon, un petit bash sur le côté cinéma.
Ok.
Sam, attendre d'un réalisateur qui a foutu en l'air Die Hard 4.
J'avoue.
Ça c'est fait. As-tu un petit bash, toi, Sam?
Non, pas cette semaine. Je suis de bonne humeur.
Ouais, moi non plus.
Il a relu Suprême au moins 10 fois et donc du coup il est.
Voilà.
Il est
du... bonne... Non, je crois que c'est le système qui commence à m'avoir.
Tu es heureux de tout.
Voilà, presque. Ça continue, je vais commencer la drogue.
Tu rejoindras les paradis artificiels que nous dépeint Morrison.
Voilà. Nono chez toi, tu vas voir.
Il va y avoir du sang, de la chic et du molar.
Ce sera le bon match de la semaine à ce moment-là.
Virez nos notes chez moi, genre. En termes de réaction, le Comics-Com, pas beaucoup de réactions cette semaine. Quelques réactions par rapport à Joe Kubert à sa mort. Et puis ce Marvel Now qui vous attire décidément pas. Apparemment, vous attendez pas trop ce Marvel Now. Vous en attendez rien de bon. Bon, on verra.
On verra. Peut-être aussi un peu trop de relaunch chez Marvel. C'est pour ça que ça.
Non, je sais pas, pour moi c'est la chose la plus palpitante qui est arrivée chez Marvel depuis ces 5 dernières années.
Ça m'intéresse, mais peut-être que les gens sont un peu lassés aussi d'avoir des relaunchs tous les 3 ans.
Ouais, mais je les comprends aussi. Hein, mais.
En plus, quand on est lecteur VF et qu'on vient de se taper un relaunch chez Panini, si on se fait, enfin, on écoute les news et on se dit putain, il y a encore un relaunch aux États-Unis. Ça fait vraiment l'overdose de relaunch.
Est-ce que Panini refera un relaunch dans 6 mois?
Je sais pas. Mais, ça m'étonnerait parce que là vraiment ça ferait
quand les one shot. Les one shot Marvel Heroes one shot, le mois d'après c'est Marvel Elite one shot. Oui, Marvel Elite, j'ai été le chercher au fin fond de ma mémoire celui-ci. Allez, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour les news, mardi prochain bien sûr, samedi le Comics Weekly, et puis si tout va bien normalement jeudi vous aurez la deuxième partie du spécial série. À moins d'un gros imprévu cette semaine, il devrait sortir jeudi. Et puis, comme d'habitude, hein, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity, nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et retrouver tous les anciens épisodes sur iTunes. Et oui, et sans oublier, bien sûr, tous les articles sur le site, les guides, les top et flop, et les news de Corwin, hein, qui sont complémentaires de cette émission. Et puis, bien sûr, toutes les autres reviews. C'est tout.
Et pour le spécial, Claire, elle a choisi les frères Scott.
Ah ah.
Surprise.
Surprise. Allez, on se dit à la semaine prochaine et à bientôt.
Salut. À bientôt. À tous.